9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes donc ensemble encore pour 57 minutes à suivre. Eva Rock et son zapping du lendemain pour petit et grand budget. Et Bertrand Chamerois pour son écran de veille, très petit budget. Notre invité, le grand Gérard Jugnot, cette fois-ci ne sort pas un film mais un livre qui revisite les contes célèbres pour enfants. Et vous le verrez, il ose tout. Et puis dans les indispensables 100% élections américaines, un jeu vidéo, un comics et des séries pour tout comprendre de la politique aux États-Unis. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et bonjour Bertrand Chamerois.
Et bonjour.
Comme tous les jours, c'est votre écran de veille. Qu'est-ce qui a retenu votre attention, cher Bertrand ?
Alors comme ça, Europe 1 est à l'heure américaine et on m'informe pas. Sous prétexte que je suis un saltimbanque, j'ai pas le droit de faire partie du dispositif spécial, c'est ça ? Non mais Audi, y a pas que Mathieu Béliard qui a fait anglais LV1 dans cette maison. Hein. Moi aussi je regarde Netflix en VO sans les sous-titres. Oh. Ah, on l'entend moins le chevelu d'un coup. Bah vous savez quoi, je m'en fous, je le fais quand même. Écran de veille spécial USA, allez jingle, hymne national. Oui, bon, j'ai pas les moyens de la matinale. Direction les États-Unis, donc. Zone Interdite proposait un reportage intitulé « Pour ou contre Trump, des Français au cœur de la folie de l'élection américaine ». Parmi eux, Francesco, qui conduit sa voiture tout en jouant du ukulélé au volant. Oui, et alors, on est aux États-Unis, on fait ce qu'on veut. Mais également, Véronique et Eric, couple expatrié depuis 2014. Eric, dont je suis tombé sous le charme dès sa première phrase.
Ah, puis il a mis un beau petit t-shirt, hein ? Ça va, ma poule ?
Quelqu'un qui dit « ça va, ma poule ?» C'est souvent annonciateur d'un bon moment. Surtout quand c'est prononcé avec un pantacourt bannière étoilée et des lunettes bling-bling, grosses comme un pare-brise de Twingo. Non, mais vous verriez la taille de ses binocles, c'est un piège à moucheron. Le jour où il les fait tomber, il va pas chez Afflelou, il va chez Carglass direct. Eric, un homme qui en veut et qui a un credo dans la vie.
Yalla !
Hey, ça va, poteau ?
Oh putain, vous êtes rock'n'roll.
Ah bah non, on est toujours à donf. Hein.
Ouais, on est toujours à donf. Hein. En revanche, malgré la pandémie, le masque, très peu pour Eric, il n'en porte pas. Alors vous allez me dire que s'il ne porte pas de masque alors qu'il vit aux États-Unis, c'est qu'il doit être proche de la mouvance QAnon et penser que le Covid est un complot des Illuminati et qu'il y a quelqu'un dans le costume des Bogdanov. Pas du tout. Il a un argument beaucoup plus rationnel sur les masques.
T'as pas de masque ?
Non, je pense à moi les masques.
Il aime pas les masques, bah voilà. Donc il n'en porte pas. C'est aussi simple que ça. C'est comme Philippe avec les slips.
Eric, comment vous savez ça ?
Bah, j'ai mes infos. Eric, qui tient à ce que tous ses interlocuteurs saisissent parfaitement le sens de ses propos, c'est pourquoi il ponctue toutes ses phrases d'un léger tic de langage, tu vois ?
Je peux rien nous interdire. Toi.
Ah oui. Tu vois ? Je le disais, ça fait 6 ans qu'Eric et sa femme sont installés aux États-Unis. Mais alors pourquoi avoir choisi ce point de chute ? Eh bien pour des motifs qui vont faire voler en éclats tout un tas de stéréotypes concernant les USA.
Moi j'adore le Coca-Cola, les burgers, les bagnoles qui font du bruit, et les trucs qui fument, qui polluent, tout sur eux ici. Moi.
Alors attention, question, c'est pas évident. Eva, d'après toi, quel candidat Rico supporte-t-il ?
Allez, Donald Trump.
Mais oui, bonne réponse, tu marques un point.
C'était difficile.
Et c'était pas évident.
Elle est forte, Eva, elle est très
maligne. Et pourquoi soutient-il Trump ? Ce n'est ni pour son bilan économique, ni sa politique étrangère, mais...
On a un président qu'on aime bien, toi. Même si, malgré qu'on comprend pas tout ce qu'il dit... On est super heureux aux États-Unis.
Voilà, on comprend pas tout ce qu'il dit. C'est peut-être pour ça qu'il l'aime bien.
Ouais.
Avec des soutiens comme ça, il a pas besoin d'opposants. Allez, avant de refermer cet écran de veille spécial USA, un mot de la France et les pronostics, non pas de Thierry Léger, mais de Jean Castex pour les courses. Il vous recommande de miser sur les yaourts, les biscuits apéro, l'eau qui pique et le dentifrice. En revanche, attention, les jouets, les sous-vêtements, les livres et les fleurs sont non partants. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Écoutez le monde vriller.
Merci beaucoup, Bertrand Chamerois.
Ça.
Bravo, très bon slogan. Eva avec vous, on va regarder vers l'avenir.
Oui.
L'avenir, c'est notre soirée, non pas plus loin que ça.
Oh, ouais, oui,
c'est déjà pas mal.
C'est
que faut-il regarder ? Quel est le thème, Eva, de votre zapping du lendemain ?
Eh ben, c'est le fric. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur, paraît-il. Vic alias Sophie Marceau dans la Boum 2 ne me contredira pas. Retour à la maison où son père l'attend. Elle a largement dépassé l'heure du couvre-feu.
Vas-y.
À toi l'honneur.
Bon, bah d'abord, le concert, c'était génial. Ça finit tard.
Bon, puis ça suffit. Avant tout, une règle. T'es malade, en panne, enceinte, droguée. Un coup dur, tu téléphones.
Coup dur, il n'y a que ça pour vous, les parents. Pas que les coups durs dans la vie. Il y a plein de choses qui peuvent vous empêcher de téléphoner. On m'a piqué mon sac, on a marché, il pleuvait. On n'avait pas d'argent.
On a fait du stop, mais c'était pas des coups durs justement parce qu'on était bien, j'étais heureuse et j'avais pas envie d'entrer. Même si je savais que vous soyez inquiet et que t'allais m'engueuler. When you smile,
on s'en lasse pas, on est d'accord Bertrand. Elle a beau pleurer dans les bras de son père, elle est heureuse, heureuse et amoureuse du beau Pierre Cosso. La plus belle des maladies, celle de l'amour. Sauf que argent et maladie ne font pas bon ménage aux États-Unis, comme vous le découvrirez dans un documentaire édifiant sur Arte, la démocratie du dollar. L'industrie pharmaceutique fait partie des lobbies les plus puissants, capables d'acheter des campagnes électorales et donc d'influer sur l'éventuel vote d'une loi, par exemple, destinée à encadrer le prix des médicaments. Écoutez le témoignage de cette femme. Elle est élue démocrate et elle est diabétique.
À la fin des années 90, le prix d'un flacon d'insuline était d'environ $16. Aujourd'hui, il a augmenté de plus de 1200%. Il coûte $340. Le système est-il corrompu? Oui. Est-ce que ces politiciens reçoivent de l'argent? Oui.
Excellent documentaire, effrayant. Vous allez comprendre comment le système de financement des campagnes a des répercussions sur l'ensemble des politiques publiques. Et ce n'est absolument pas rassurant. Mais je voulais finir sur un sourire, Philippe, double sourire. La chaîne Comédie Plus diffuse Génération Guignol. C'est une sorte de best-of des Guignols, mais thématisé. Et ce soir, vous pourrez entendre notamment ce sketch sidérant. PPD est face à Monsieur Sylvestre, vous en souvenez?
Bien sûr.
Qui reconnaît qu'il n'y a pas assez de vaccins contre la grippe pour tous les Américains.
On les soignera.
Mais vous allez faire des vaccins alors?
Non, on les soignera quand ils seront malades.
Pourquoi attendre qu'ils soient malades?
Pour leur vendre des médicaments, banane.
La première chose que vous trouvez à faire, c'est de vendre des médicaments.
Non, la première chose, c'est de doubler les prix des médocs.
Mais c'est atroce.
C'est la loi du marché. Ne fais pas l'étonner, hein. Nous, on est là pour vendre des médocs. Et pour vendre des médocs, il faut que les gens soient malades. On a un business plan très clair.
C'est dingue parce que c'est prémonitoire.
Mais attendez, vous en voulez encore?
Ouais.
Parce que d'abord, la suite du sketch, elle est encore plus cynique et je vous la recommande. Mais écoutez bien, PPD face à Roselyne Bachelot. À l'époque, elle était ministre de la Santé et elle doit faire face, vous en souvenez, à une épidémie de grippe et à l'augmentation du forfait hospitalier.
Avec la grippe A, les hôpitaux vont tourner à plein régime. En augmentant le forfait de 25%, on va se gaver.
Et c'est bien ça?
C'est génial. On espère un taux de remplissage de 120% cet hiver. Tous les Français vont y passer. Ah, c'est le jackpot, hein? Donc, je rappelle les consignes. Éternuez. Ne vous lavez pas les mains et prêtez vos mouchoirs. Bonne épidémie.
C'est prémonitoire.
Je suis désolée, évidemment, il faut faire tout l'inverse. Mais quand même, la santé, les États-Unis, le sport sont quelques-uns des thèmes abordés par nos marionnettes préférées. C'est absolument jubilatoire de voir ça. La vérité sort aussi de la bouche des guignols. Alors je récapitule, pas d'argent mais heureuse, c'est dans la Boom 2 sur TFX à 21h05. Pas d'argent et malade, c'est dans la démocratie du dollar sur Arte à 20h50. Pas d'argent et beaucoup de cynisme, c'est dans Génération Guignol à savourer sur Comédie Plus à 21h.
Merci beaucoup Eva Rock, merci à Bertrand Chameroy, toujours à donf. Dans un instant, on sera avec notre invité Gérard Jugnot, mais d'abord musique avec Alain Souchon.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et bonjour Gérard Jugnot.
Bonjour Philippe.
Plaisir de vous entendre, vous êtes comédien, metteur en scène, membre de la troupe du Splendide, vous avez fait naître Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, je ne vais pas faire toute votre bio, c'est trop et trop impressionnant. Votre actualité, ce n'est pas un film, ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est un livre, ça s'appelle C'est l'heure des contes, ça sort chez Flammarion, dans lequel vous revisitez Perrault, La Fontaine ou Grimm, mais des contes drôles et cruels, peut-être à ne pas mettre entre toutes les mains. C'était quoi votre idée de départ, Gérard Jugnot?
C'était de reprendre ce qui a fait les lectures de notre enfance. On lisait ces contes qui nous faisaient peur, et c'était une manière de vaincre cette peur, de la surmonter ou de l'effacer. Et moi, je revisite ça à notre époque avec un regard assez tordu et un humour, j'espère, un peu noir, pour justement rire plutôt que d'en pleurer. Quoi.
Vous avez raison, l'humour est noir, il y a beaucoup d'humour. Votre livre s'appelle « C'est l'heure des contes, je l'ai dit ». C'est un jeu de mots sur les contes qu'il faut faire. C'est l'heure des contes, on fait les calculs. Mais on entend également « C'est l'heure des cons ». Parce que vous défoncez la connerie ambiante et la doxa. C'est comme ça que je l'ai lu, c'est comme ça que je l'ai entendu.
Oui, un petit peu, mais enfin, on est toujours le con d'un autre, on est le con de soi-même aussi. Non, c'est un règlement de compte. C'est-à-dire que c'est vrai que je me souviens de ces comptes qui étaient affreux, quand même. Je repensais à ça. Le petit Pousset, c'est abominable, quand même. C'est ces enfants qu'on va perdre dans la forêt parce qu'on peut plus les nourrir. Ouais. C'était quand même pas une époque formidable, hein, si je peux me parodier. Et tout est comme ça. Je veux dire, les ogres qui mettaient les enfants dans les saloirs pour les manger, le loup qui mangeait la grand-mère. Tout ça. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si ça se passait de nos jours? Donc du coup, le loup, il est vegan. Le pauvre loup, il mange plus parce qu'il est.
Ah bon, on va raconter.
Sur les os en titane.
Ouais, je vais commencer par le petit Pousset. Oui. Il était une fois, écrivez-vous, une famille nombreuse très pauvre, mais vraiment très pauvre, qui criait famine dès le 15 du mois. Donc on voit qu'on est bien au 21e siècle. De plus, comble de malchance, le père et la mère étaient aussi très bêtes. Et c'est par un soir de grande beuverie, après avoir vu L'amour est dans le pré sur leur écran plat, qu'ils eurent l'illumination. La solution était dans la forêt. Mais on peut plus faire ça, on peut plus abandonner ses enfants, Gérard Jugnot. Je le regrette pas, mais je vous le dis quand même.
Oui, mais oh, enfin, si, il y en a sans doute qui le font. Mais oui, parce qu'ils ont lu le compte.
Ouais.
Mais bon, quand on vous dit il crie famine le 15 du mois, on est au 21e siècle. Mais enfin, faut pas non plus déconner. Les famines, elles ont encore lieu, mais beaucoup moins que dans le temps passé. Moi,
c'est
je suis
vrai.
Pas en train de dire que c'était mieux avant.
Ouais.
Je prends simplement ces comptes et je m'amuse avec. C'est histoire de rigoler, de dire que c'était affreux à l'époque et c'est encore affreux maintenant avec d'autres choses.
Mais ouais.
C'est-à-dire que les choses, on les connaît plus, c'est tout, quoi. Faut pas oublier quand même que le 20e siècle, que tout le monde regrette, il y a eu la guerre de 14, il y a eu la deuxième guerre, il y a eu les guerres coloniales, il y a eu la Shoah, enfin bon, ça a été. Alors c'est vrai que nous, on a le sida et le Covid, mais enfin, c'est quand même pas non plus, enfin, même si c'est dramatique et surréaliste, à chaque époque, c'est catastrophe, quoi.
Vous avez raison. Et nous, maintenant, on a le nucléaire. Autre exemple, vous revisitez Blanche-Neige et les Sept Nains. Vous avez seulement modifié une lettre.
Oui. Ben, c'est, oui, Blanche-Neige qui est née avec sept mains parce que elle a été conçue près de Tchernobyl, mais bon.
pardon de rire.
Pardon de rire. Ouais. Et ben, je crois qu'il faut pas demander pardon quand on rit, et c'est un peu ce que je pense, quoi. Il faut, si on rit, c'est que c'est drôle et que ça évacue.
Oui.
Le rire, il ne repose que sur le drame, que sur l'horreur, que sur le c'est fait pour
on est bien d'accord.
Le rire.
Mais vous savez pourquoi on dit ça à la radio? Vous savez pourquoi on dit ça à la radio maintenant? C'est la doxa, c'est parce qu'il y a des parents qui nous écoutent et dont l'enfant a sept mains. Et donc, on ne veut pas gêner les parents qui nous écoutent. Et c'est à la fois, vous avez raison, ça peut se déplorer, à la fois, c'est totalement compréhensible.
Non.
Il y a quelque chose qui a changé dans l'époque.
Cette main, c'est beaucoup, hein. C'est rare.
C'est pour ça que je l'ai dit, d'ailleurs. vous revisitez.
Non, mais, vous savez, j'ai parodié deux fois le Téléthon.
Ouais.
J'ai joué au théâtre, et souvent, il y avait des handicapés. Et c'était le premier à rire. Je veux dire, s'ils savent que vous le dites pas méchamment et que c'est les premiers à rire. Si vous voulez, le film, par exemple, Patient, je crois, de Grand Corps Malade, il y avait beaucoup de vannes là-dessus. Je crois qu'il faut aussi arrêter.
Mais vous savez pourquoi c'était possible?
C'est des pudeurs de bien portant, ça.
Je suis d'accord. Vous savez pourquoi c'était possible? Parce que Grand Corps Malade, il est lui-même malade,
oui,
lui-même
absolument.
Handicapé, et c'est pour ça qu'il peut se permettre. Mais quand on est valide
et
qu'on se permet, ça passe plus du tout.
Il faut raconter des histoires de juifs, les arabes sur les arabes. Enfin, bon, c'est le vrai problème, quoi. Mais bon,
on est bien d'accord.
Après, il faut aussi un peu de bienveillance et puis de. Ça, vous savez, c'était Léo Ferré qui disait: moi, je veux bien qu'on rie de moi, mais ça dépend de quel rire. Et je crois qu'il y a des rires qui sont meurtriers, parce qu'il ne faut pas croire que le rire est une chose sympathique toujours. Hein. On rit beaucoup dans les congrès des partis extrémistes.
Ouais.
Il y a le rire et la moquerie. Je pense que moi, je ne pratique pas. Je ris avec et je ris peut-être un peu noir parce que j'ai peur, comme tout le monde.
On est bien d'accord.
Le rire, moi, m'a sauvé, parce que j'avais un petit peu peur d'être sur cette terre, parce que je comprenais pas ce que j'y faisais.
Vous restez avec nous, Gérard Jugnot, on a encore plein de questions à vous poser, et plein de choses dont on n'a pas parlé qui sont dans ce livre, par exemple ce loup qui est devenu vegan. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Gérard Jugnot, c'est l'heure des contes. C'est un recueil de contes qu'il a écrit lui-même, évidemment, qui parodie les contes qu'on connaît, mais à sa manière, avec son regard et son humour noir. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, je parlais des trois petits cochons en Thaïlande. Non, j'en parlais pas, je parlais du loup, mais les trois petits cochons en Thaïlande, on imagine que ça a parlé de pédophilie, mais pas du tout.
Non.
Dites ce qui leur arrive à ces trois petits cochons.
C'est raté. Non, je reprends. Non, il leur arrive beaucoup de choses parce qu'ils ont fui les élevages intensifs porcins de l'Europe. Ouais. Et il leur arrive la même chose. Et ils sont sauvés. Sauf qu'il y a le tsunami. Donc, ouais.
D'où la Thaïlande.
Voilà. D'où la Thaïlande. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'ai essayé de trouver des chutes. C'est un feel bad book, comme on dit. Hein. Ouais. Il y a des feel good films, comme on dit.
Ouais.
Et là, c'est un truc qui, je pense que c'est soigner le mal par le mal, quoi, d'aller plus loin que ça. Mais déjà, ces contes avaient cette vocation, les contes de Perrault ou de ouais. Grimm. Ils étaient là pour faire peur aux enfants, pour leur apprendre que le monde n'était pas forcément joli. Ouais. Il fallait se trouver des vitamines pour lutter, pour être en bonne santé morale et physique.
Et là, en l'occurrence, Gérard Jugnot, vous revisitez le petit chaperon rouge, j'ai retrouvé mes notes, sauf que le loup habite en Europe, il est devenu végétarien, il est en Europe, et comme ça ne suffisait pas, il jette sur la galette et le pot de beurre, mais le petit chaperon rouge sort une bombe anti-agression qui l'aveugle, et c'est pas fini. La grand-mère paralyse le loup, elle a un taser, la grand-mère. Mais c'est comme ça que vous voyez le monde?
Mais non, je vois pas le bon jeu. Oui, c'est vrai que j'ai un peu l'esprit tordu. Comme je dis toujours, j'ai tendance à voir la bouteille à moitié vide et en plus le vin est bouchonné. Donc c'est plus une manière de lutter contre mes propres défauts de voir un peu les choses en noir. Donc je mets du rose sur le noir. D'ailleurs, c'était le titre d'un de mes films. J'essaie de mettre du rose sur le noir, comme le clown met un nez rouge sur l'ivrognerie et la pauvreté et la tristesse. Je crois que le rire, il est là pour nous soigner de nos peurs, de nos détresses. Et puis surtout, c'est aussi une manière de s'amuser. C'est ouais. vrai que j'imaginais que moi, je suis pas contre le végétarien, les végétariens, le végan, ouais. un peu, mais non, c'est vrai que moi, je suis contre les élevages intensifs, bien sûr. Mais je dis toujours à ma charmante épouse que bientôt il y aura plus que sa chienne qui mangera de la viande. Donc, il faut aussi il y a des contradictions comme ça qui me sautent au visage. Je trouve que c'est toujours pareil. Vous savez, il y a toujours des balanciers comme ça. Ouais. Il y a eu le balancier contre la pruderie,
puis
qui a
donné
la pornographie la pire.
Ouais.
Il y a eu un truc, là il y a un mouvement féministe qui va un peu, à mon avis, un peu loin dans un sens, mais il faut que les choses reviennent. Moi je suis un homme du milieu, hein. je suis extrême centre.
Vous attaquez aussi, vous amusez de la dictature de la minceur, des réseaux sociaux, de la limitation à 80 km/h, les influenceurs aussi. Qu'est-ce qui vous énerve chez les influenceurs?
Parce que c'est souvent des crétins.
Vous regardez les Marseillais?
Non mais je suis sidéré, moi, de voir tous ces gens qui postent des photos, genre, comme je suis belle, oh, regardez, j'ai changé de robe, j'ai changé de coiffure, ils ont 80, 100 000, 500 000, 1 million de followers, comme ouais. on dit, des gens qui suivent. Mais bon, je suis pas contre le fait de vouloir être connu, parce ouais. que j'ai passé ma vie malheureusement à faire la même chose.
Mais peut-être pas pour les mêmes raisons.
Oui, je pense qu'on peut être connu. Vous savez, le fait d'être connu, moi, je suis connu maintenant. Ouais. Mais c'est parce que j'ai fait des choses, parce ouais. que j'ai écrit des histoires, j'ai fait des films, j'ai joué, j'ai fait rire les gens, j'ai essayé de faire un petit travail. Le côté, je suis connu. Pourquoi tu veux être connu? Parce que je veux être connu dans l'absolu. C'est complètement con, parce que ouais. Vous présentez la météo, vous êtes une star. Hein.
On est bien d'accord.
Voilà, j'ai rien contre ça. Si les gens sont heureux comme ça, je peux ricaner. Quoi. Ouais. Voilà, c'est tout.
Bon, enfin, pour résumer, vous n'êtes pas connu pour vos nouveaux tatouages, Gérard Jugnot, ni pour vos tablettes de chocolat. Je veux dire pourquoi je vous demandais si vous regardez les Marseillais, parce que vous habitez parfois du côté de Marseille. Est-ce que vous les croisez dans la rue, tous ces gens-là?
Oui. Non, parce qu'ils sont souvent à Dubaï. Hein, mais
Ah oui, ils ne sont pas à Marseille, les Marseillais.
Je sais pas. Non, mais je dis ça, Marseille, j'aurais pu être les ch'tis ou les trucs, vous savez, ces émissions où on prend des gens, en espérant qu'ils vont dire des absurdités, des énormités pour pouvoir se nourrir de blagues et faire vivre les réseaux sociaux, comme l'histoire du loft avec le mec qui cherchait du thym. C'était du thym, quoi. Mais je pense pas que les gens soient plus bêtes qu'avant. Simplement, on les voit plus, quoi.
C'est joliment dit. Vous restez avec nous. On est très content de vous entendre, Gérard Jugnot. On va passer à notre premier indispensable avec Eva Rock, qui va vous et nous conseiller trois séries pour être incollable sur la politique américaine. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
C'est l'heure des contes et c'est le moment de Gérard Jugnot. C'est lui qui signe ce livre chez Flammarion, livre illustré, je ne l'ai pas dit encore, par une personne dont j'aime beaucoup le nom, Mouche Cousue. Voilà, c'est très drôle. Gérard Jugnot, vous êtes fan de séries ?
Oui, j'aime bien ça. Oui.
Pas plus que ça, vous avez...
C'est très chronophage. C'est vrai qu'en ce moment, on peut y aller, là.
Ça, on est d'accord. Avec le confinement, on peut y aller. Le rire qu'on entend,
non,
c'est celui...
Ce qui est pas tant...
Allez-y, Gérard.
Ce qui est pas tant dans la série, ça a d'ailleurs changé, je trouve, l'écriture des scénarios. Mm-hmm. C'est qu'on a le temps de s'installer beaucoup et de créer des choses, d'aller plus loin dans les psychologies. Je me souviens d'avoir revu un vieux film de Clint Eastwood où il y avait une enquête policière, où il arrivait à sauver un innocent, comme d'habitude. Et ce film d'1h30 me paraissait très sommaire par rapport à l'écriture maintenant, très fouillée des séries comme, je parle des françaises comme le Bureau des légendes ou le Baron Noir ou des choses comme ça que j'aime beaucoup. Moi.
Le rire qu'on a entendu, voilà. C'est celui d'Eva Rock et c'est sa voix. Vous êtes de retour, Eva.
Oui.
Et vous allez nous prouver que les séries peuvent être également un excellent outil pédagogique.
Mais c'est exactement ce que vient de dire aussi Gérard Jugnot, à savoir qu'on peut aller dans la profondeur des personnages. Et je voulais vous parler de vie politique américaine parce que ces séries, elles peuvent nous permettre d'appréhender ce qui se passe à la Maison Blanche. Alors on va être clair, c'est de la fiction évidemment, mais quand même, par exemple sur le site MyCanal, depuis quelques jours, sont disponibles les 7 saisons de The West Wing, portées notamment par Martin Sheen en président démocrate. Mais la série s'attarde surtout à décrire le cabinet du président, installé dans l'aile ouest de la Maison Blanche. Parmi les conseillers, il y a Sam Seaborn qui est interprété par Rob Lowe. Alors, écoutez bien, on est en 1999. Alors, quand il reçoit un message, c'est pas sur un téléphone portable, c'est sur un pager.
Tu diras à ton ami Potus qu'il a un drôle de nom quand même et qu'il devrait apprendre à faire du vélo.
Je voudrais bien, mais c'est pas mon ami, c'est mon patron. C'est pas son nom, c'est son titre.
Potus ?
Président des États-Unis. Je te rappelle.
C'est une série importante aux États-Unis.
Oui, The Last Wing, The West Wing, elle est déterminante parce que innovante notamment. Aaron Sorkin, le créateur, invente notamment ce qu'on appelle désormais le walk and talk, marcher et parler, ou quand la caméra suit des comédiens en train de jouer dans de longs plans séquences. Voilà.
J'avais jamais réalisé que ça n'existait pas avant.
Exactement, c'est lui qui a inventé ça. Alors, autre innovation, la participation d'une ancienne porte-parole de la Maison Blanche au scénario, ce qui permet à la série d'être réaliste sur le fonctionnement de l'équipe du président et surtout sur les sujets abordé parce que sur ce dernier point, The West Wing évoque tous les thèmes du moment, à savoir l'éducation, le racisme, le droit à l'avortement, l'homosexualité, mais aussi la politique extérieure des États-Unis. Résultat, la série devient une sorte de témoignage des années 2000. Alors, le président, lui, est décrit plutôt de façon élogieuse. Il veut le bien de la nation, ce qui n'est absolument pas le cas dans la deuxième série que j'ai choisie pour vous. Une série qui est devenue un classique à voir sur Netflix, House of Cards. On change totalement de registre pour un regard beaucoup plus complotiste de la politique. David Fincher, le créateur, s'emploie en fait à décrire l'ascension de Frank Underwood, incarné par Kevin Spacey. D'ailleurs, le voilà, il prête serment et il s'adresse ensuite face caméra aux spectateurs que nous sommes.
De consciencieusement et loyalement m'acquitter des devoirs de la charge que je m'apprête à investir.
Que Dieu m'y aide.
Que Dieu m'y aide. Et me voilà à portée de main de la présidence sans avoir jamais recueilli le moindre suffrage. La démocratie est tellement surcotée.
Sauf que le héros, le comédien, a disparu de la série.
Eh oui, Kevin Spacey, accusé d'agression et d'harcèlement sexuel à l'époque, dans la vraie vie, a disparu du scénario. C'est Robin White qui joue sa femme, qui est devenue l'héroïne principale. Moi, je vous recommande vraiment cette série diabolique, traitée comme un polar. Alors, en revanche, ne loupez pas un épisode, sinon vous n'allez plus rien comprendre.
Au pire, on vous appelle. Vous avez parlé de trois séries, donc quelle est la dernière que vous nous conseillez, Eva ?
Alors, une comédie, j'avais envie de rire aussi, mais qui raconte à sa façon les coulisses de la Maison Blanche. Ça s'appelle VIP. 7 saisons sont à voir sur sur OCS. Un VIP, c'est le poste de vice-président aux États-Unis. Et il est tenu dans la série par la sénatrice Selina Meyer, dont vous allez découvrir le langage fleuri, voilà, on va dire ça comme ça, extrait avec une de ses collaboratrices à qui elle vient d'annoncer le recrutement d'un nouveau chargé de communication.
Vous l'avez engagé. Vous avez engagé le pire connard de Washington.
Oui, enfin, je parle couramment, le connard. C'est ma deuxième langue. Amy, je me suis servi de Dan pour arriver à mes fins.
C'est lui qui vous utilise pour arriver à ses fins.
Non, c'est moi qui l'ai utilisé. C'est moi l'utilisateur et c'est lui l'utilisé.
C'est bon, Amy.
Alors j'ai pris un passage assez peu grossier parce que les gros mots sont vraiment... Voilà, les gros mots sont légion dans cette comédie qui est hilarante, qui doit son succès à son interprète principal, Julia Louis-Dreyfus, qui a été multi-récompensée pour ce rôle, capable de nous faire rire aux éclats mais aussi de nous émouvoir. VIP, c'est vraiment la satire, le propos est cynique, les dialogues sont une suite de punchlines exceptionnelles, c'est vraiment à voir. Si vous voulez d'autres idées de série d'ailleurs qui évoquent la politique américaine avec toute l'équipe de Sériland, on en parle dans un épisode du podcast qui est consacré à ce sujet avec l'expertise de Corentin Célin, qui est spécialiste des États-Unis. Et puis je me posais une question, Philippe, est-ce que Gérard Jugnot, vous auriez aimé interpréter un rôle comme celui de Cadmerat dans Baron Noir dont vous parliez il y a quelques instants ?
Tiens, bonne question, là lui pose Gérard Jugnot.
Alors oui, oui, alors bien sûr. C'est, quand c'est des séries de très bonne qualité. Vous parliez des trucs américains. Moi, j'avais découvert sur le tard le Designated Survivor.
Bien sûr. Où,
avec
Yves Sutherland.
D'ailleurs, il y avait un épisode où il y avait une menace de virus, mais grâce à ce président tombé du ciel, tout se terminait très bien, très très
c'est
vite.
Vrai.
Et là,
c'était prémonitoire. Ça avait été écrit avant. Ça avait été écrit avant le Covid.
C'est non.
Oui, oui.
Là où c'est pas après. Il y a 3-4 ans. Et c'est prémonitoire dans la mesure où c'est prémonitoire. Malheureusement, non, parce qu'ils ont trouvé la solution très vite.
Ah oui, mince. Malheureusement.
C'est grâce à Hollywood.
Eh oui.
Et vous avez des projets.
Non, mais il y a des trucs.
Gérard, vous avez des projets de série vous-même. Est-ce qu'on risque de vous voir dans une série prochainement?
Moi, j'ai fait un petit truc dans une série TF1 sur l'affaire Grégory, ça s'appelle une affaire française, qui est un truc assez intéressant, parce que ça parle évidemment de l'affaire, mais ça parle surtout des médias qui se sont pas toujours bien comportés à cette époque, comme c'est rare d'ailleurs.
Oh, dis donc, c'est un euphémisme, ouais. Dis donc, mais Gérard Jugnot, pardon de ce compliment, mais vous êtes Gérard Jugnot, on veut pas vous voir dans un petit truc, on veut vous voir dans un gros truc. C'était ça le sens de ma question.
Ah oui, oui, non,
vous
mais là,
c'était porter une série.
C'était pour jouer à... Ah oui, pourquoi pas, mais il faut trouver le personnage, il faut trouver la qualité. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Si vous voulez, moi j'ai la chance de faire du cinéma, du théâtre.
Bien sûr.
Quand ils sont ouverts. donc là, j'ai bien fait de faire un petit bouquin pour Noël.
Mais je parlerai quand même. On va parler à la fin de l'émission de vos projets cinéma, Eva Rock.
Et Gérard Jugnot, et écrire une série, est-ce que ça vous brancherait?
Ah, ça, c'est compliqué. Hein.
Pourquoi? Non, c'est plus compliqué que pour un film.
Idée, mais... Oh oui, oui, parce qu'il faut des arches, il faut des bibles, c'est très très, c'est un travail énorme, énorme. Et je dois dire qu'ils sont assez forts, hein, que ce soit le Bureau des légendes ou le Baron Noir, parce qu'on parle des Français, pour arriver à tenir et à passionner les gens comme ça, c'est balèze. Hein. Mais c'est beaucoup de travail.
C'est beaucoup, beaucoup de travail, on voit bien le problème. Merci beaucoup, Eva Rock. Je précise juste
Merci.
Un mot.
Oui.
VIP, pour les gens qui veulent regarder, ça s'écrit V-E-E-P.
Exactement.
Si vous tapez
sur
VIP
OCS.
Sur votre télécommande, ça ne va pas marcher,
non.
Vous n'allez rien trouver. Merci beaucoup, Eva Rock. Dans un instant, on reste avec Gérard Jugnot. Notre deuxième indispensable, ce sera avec Clément Le Saffre, mais d'abord musique avec Gigi Wild.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est l'heure des contes, c'est l'heure de Gérard Jugnot, c'est l'heure de parler de jeux vidéo et de comics et d'Amérique. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous aussi, vous nous parlez de l'élection américaine avec deux regards décalés sur le scrutin qui ne manqueront pas d'intéresser Jugnot.
Oui, et d'abord on va commencer avec un jeu vidéo. Vous connaissez l'expression, Philippe, la politique est un sport de combat. Eh bien,
oui,
il y a un jeu qui l'a prise...
C'est une phrase de Bourdieu, si je me souviens bien.
Exactement. Et il y a un jeu bien qui a pris cette expression au pied de la lettre, c'est Unpresidential, pas présidentiel, si on traduit, un petit jeu en forme d'application créé par des Français dans laquelle on fait littéralement s'affronter les candidats à la Maison Blanche à coups de poing et à coups de pied. Alors à droite du ring, il y a le tenant du titre, le tweetos fou, 1m90, 74 ans, c'est Donald Trump.
Rule number one, you don't touch the hair.
Et à gauche du ring, on a le challenger, le vétéran, 1m83, 77 ans, c'est Joe Biden.
You're gonna shut up once and for all.
Voilà, un peu de trash talk qu'on incarne soit l'un, soit l'autre. Et c'est parti, dans le jardin de la Maison Blanche, il faut mettre des tatanes à son adversaire jusqu'à la victoire. Je vous laisse apprécier les bruitages.
Trash. J'adore. Trash talk, on a bien compris. C'est des insultes, des gros mots. C'est drôle. Est-ce que c'est un bon jeu, Clément ?
Alors, je vais être honnête, c'est pas un jeu compliqué, hein. Il faut juste tapoter son écran pour frapper son adversaire. Au bout de 3-4 parties, on finit par se lasser un peu. En fait, c'est surtout le fond, moi, qui m'a interpellé, car Unpresidential est plus travaillé qu'il n'y paraît. Les développeurs ont fait appel à un imitateur américain pour les voix, et ils ont travaillé avec Raphaël Malkin, c'est le correspondant du magazine Society aux États-Unis. Mmh. Il les a aidés à écrire quelques 90 punchlines que s'envoient Trump et Biden dans le jeu. Écoutez, Abdel Bounan, c'est le patron du studio Bright qui a créé Unpresidential.
Bien qu'il s'agisse d'un jeu vidéo, il fallait quand même que ce soit basé sur des éléments réels liés à la vie politique, etc. Chaque coup est accompagné d'une attaque vocale liée au programme et à la personnalité du candidat. Ensuite, il y a 10 coups spéciaux avec à chaque fois une scénographie, un graphisme, des objets en 3D dédiés.
Voilà, résultat, en fait, le jeu est rempli de références à leur programme ou à leur personnalité. Un Trump envoie par exemple une rafale de tweets comme attaque spéciale, ou alors il utilise une autre attaque, son Make America Great Again. Biden, lui, balance du Black Lives Matter et utilise sa bromance avec Obama comme atout. C'est assez bien foutu, en fait, hein. C'est pas le jeu du siècle, encore une fois, mais c'est drôle et puis surtout, c'est gratuit.
Et en l'occurrence, il y a 15-20 ans, si je me souviens bien, Trump avait réellement participé à des combats de catch. Ça vous tente les jeux
Tout
vidéo, Gérard Jugnot?
Non. Je suis un peu dyslexique, donc j'ai eu beaucoup de mal. Et puis j'avais un fils qui n'était pas branché avec ça, donc j'ai pas baigné. Mais celui-là, il a l'air simple.
Voilà. Ouais.
Je vous confirme.
Mais la deuxième recommandation de Clément Le Saffre, Gérard Jugnot, peut-être vous intéresser davantage, parce que c'est un comics.
Oui, exactement, un comics, une BD américaine intitulée Prez, Prez, P-E-R-Z, hein, un diminutif de président. Prez. C'est une mini-série qui est parue aux États-Unis en 2015. Tout tient en un tome, hein, 170 pages, pas très long à lire. C'est l'histoire de Beth Ross, une adolescente qui se retrouve présidente des États-Unis à seulement 19 ans. Alors, comment c'est possible? Eh bien, parce que nous sommes en 2036 et que l'élection a lieu sur Twitter, voilà, on en est là. Exactement, Bess n'a rien demandé, elle voulait pas. C'est une blague, en fait, qui a mal tourné, lancée par des internautes. Mais, voilà, elle est élue, elle décide d'assumer en se disant, que de toute façon, elle ne pourra pas faire pire que ceux qu'elle appelle les clowns qui l'ont précédée. Et elle se retrouve donc à la tête d'un pays un peu flippant, pour être honnête, à un pays où les multinationales tirent les ficelles, où les soldats ont été remplacés par des robots pilotés à distance par des mecs en caleçon sur leur canapé, où le temps de pause pipi des employés est chronométré, et où la télé donne la parole à n'importe qui, sur n'importe quoi, pour faire de l'audience.
Mais dis donc, on n'est pas si éloigné que ça de la réalité.
Oui, on est même très proche. En fait, Prez est une satire mordante des États-Unis d'aujourd'hui. Oui, ça se passe en 2036. Oui, c'est futuriste. Mais évidemment, tout nous ramène à aujourd'hui. Une sorte de message d'alerte par l'absurde. Attention, voilà ce qui pourrait se passer si on laisse dériver les réseaux sociaux, si l'écart entre les élus et le peuple continue de s'agrandir, si les multinationales deviennent aussi puissantes que des États. C'est très drôle, hein, comme BD. Moi, j'ai beaucoup ri en lisant Prez. Il y a un humour très mordant, forcément. Mais ça fait aussi très peur, hein, quand même, parce que plein de fois, moi, je me suis dit, non, mais ça, voilà, ça n'arrivera jamais. Et puis, on réfléchit un petit peu et on se dit, en fait, c'est déjà arrivé. Donc, voilà, ça fait quand même réfléchir. Si ça vous tente, le titre, c'est donc Prez. C'est écrit par Mark Russell et c'est dessiné par Ben Caldwell. C'est édité par Urban Comics et c'est déjà disponible.
Tiens, justement, je vais demander à Gérard Jugnot si ça le tente.
C'est traduit? Est-ce que c'est en anglais?
C'est tout à fait traduit. C'est en français.
D'accord.
Est-ce que ça vous tente, Gérard Jugnot? Déjà, si vous posez une question, c'est que ça vous tente un peu.
Ah oui, oui. Non, ça a l'air intéressant, quoi. Mais enfin, c'est vrai aussi qu'il faut aussi se féliciter de l'Europe, en tout cas de notre pays, où on n'avait pas à ces extrêmes.
Ouais.
Moi, j'ai quand même beaucoup de respect pour des gens qui font ce métier de politicien, quand ils le font bien, parce que c'est un métier difficile, et moi, je leur laisse le faire, parce que je vois pas ce que je ferai à leur place. C'est compliqué.
On est bien d'accord.
Surtout en ce moment.
Ouais. Merci beaucoup, Clément Le Saffre. J'allais saluer Clément Le Saffre et dire à Gérard Jugnot qu'il restait avec nous, et je le dis aussi aux auditeurs. À tout de suite, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Gérard Jugnot, auteur Flammarion, c'est l'heure des contes, c'est le petit livre de contes, c'est petit livre parce qu'il est court, il y a une 150aine de pages. Vous les avez écrits quand, ces contes qui détournent un petit peu ce que faisaient Grimm, Perrault ou La Fontaine? C'était avant le Covid? C'était
écrit,
pendant le Covid?
Non, un petit peu avant. Mais oui, mais je les ai finis. D'ailleurs, j'ai fait une postface pour justement expliquer que ça aurait changé un petit peu les choses.
Ah bah justement,
qu'ils avaient écrit.
Vous voyez, j'allais justement vous parler de la postface. Vous dites, il y a eu un mal qui répand la terre avec un nom de bière. Donc évidemment, on pense au coronavirus. Et vous écrivez, tout aurait été différent si c'était dans le monde d'avant. Les misérables parents du petit Pousset auraient eu beaucoup de mal à perdre leur petite famille à moins d'un kilomètre de chez eux. Le petit chaperon rouge aurait été incapable de porter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère cloîtrée dans son EHPAD. Le lièvre pouvait-il justifier son arrestation? Je vous cite un motif familial impérieux de déplacement dérogatoire. Ça lui aurait coûté 135 euros et ma préférée. Quant à la belle au bois dormant, le mystère est résolu. Elle ne dormait pas. Elle est en réanimation. On l'a placée en coma artificiel et intubée. Un drôle de prince charmant, le professeur Raoult, essaye toujours de la réveiller. Je sais que parfois vous êtes du côté de Marseille. Vous le connaissez, le professeur Raoult? Vous l'avez déjà rencontré?
Non.
Ah mince, j'aurais bien aimé savoir ce que vous pensiez de lui.
Non, ben je pense comme beaucoup de gens, je sais pas. c'est vrai, c'est quand vous êtes malade et que quelqu'un vous dit, il y a deux médecins, il y en a un qui vous dit vous allez mourir, l'autre vous dit je vais vous sauver, ben vous écoutez celui qui vous dit je vais vous sauver, c'est très humain.
On est bien d'accord. Prochain projet, vous serez à l'affiche du film Pourri gâté, c'est ça, hein?
Oui, qu'on a tourné à Marseille d'ailleurs.
Et ça va sortir quand? Est-ce qu'on sait? Vous avez une date ou pas? Est-ce qu'on sait?
Normalement, c'est daté en février, mais si vous voulez, ce qui est terrible dans ces périodes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de perspectives, on ne sait pas bien ce qui se passe, parce que là, pour l'instant, le cinéma repartait bien, le théâtre aussi, avec les gestes barrières, comme on dit, mais bon, c'est vrai que comme on confine, tout ça, c'est très très compliqué, je pense que c'est pas simple à résoudre, et j'ai un petit peu de... Bon, moi, je m'en sors plutôt bien, puisque je fais pas de théâtre, et... Mais c'est vrai que pour le monde du spectacle, c'est une catastrophe, c'est dramatique, quoi. Ouais. Entre les concerts, les salles de théâtre, les salles de spectacle, le cinéma. Heureusement, il y a la radio, il y a la télé, par exemple. Et c'est plutôt bien le confinement, par exemple, pour une émission de radio, parce que j'ai pu éplucher mes haricots verts pendant toutes les pubs.
Là vous êtes en train d'éplucher tout ça.
Oui, parce qu'il faut bien manger bientôt.
Formidable.
Mais
j'ai trop envie. Attendez, c'est quoi le menu chez vous, Gérard Jugnot?
Je mange beaucoup de légumes en ce moment. Je sais pas, aujourd'hui, on va peut-être faire, quelques petites sardines pour les oméga 3 avec des haricots verts. Je sais pas ce qu'on... Non, mais j'essaye de, c'est vrai que j'ai l'air d'être un inconscient ou d'être un ricaneur, mais il faut aussi essayer de prendre des forces dans l'humour et dans la distance, quoi.
On
c'est
est bien
vrai,
d'accord.
C'est pas facile. Cette période est vraiment terrible. On est dans une série, une série de Netflix. Que je ne croyais pas de mon vivant vivre.
Ouais, et puis si...
Mais déjà, je vis.
Je voudrais donner une bonne nouvelle aussi, quand même pour les gens de théâtre. Il y a un progrès par rapport au confinement précédent, c'est que maintenant, les comédiens ont le droit de répéter. Donc le jour où on pourra déconfiner, les pièces seront prêtes. En revanche, Gérard Jugnot...
Oui, et on peut tourner aussi. On peut faire des tournages.
On peut tourner. Vous êtes allé à La Réunion pour tourner votre deuxième film, Le Petit Piaf. C'est un titre mystérieux.
Le douzième.
Oui, pardon, c'est moi qui me suis mal relu. Le Petit Piaf, titre mystérieux. Qu'est-ce que ça raconte, Le Petit Piaf?
Ben, c'est avec le petit Swan qui a gagné le Voice Kid et Marc Lavoine, Stéphie Selma, Ma Pomme et Philippe Buchen. C'est l'histoire d'un petit garçon qui rêve de passer dans une émission qui s'appelle Star Kid et qui va tomber sur un chanteur un peu à la ramasse que joue Marc Lavoine, qui se produit dans un hôtel que je dirige. Mmh. Et il va vouloir se faire coacher. Et pour persuader sa maman qu'il peut chanter. Et c'est une très belle histoire, très très joliment écrite, qu'on m'a proposé d'abord comme acteur. Et j'ai juste adapté et mis à ma sauce, mais je l'avais pas écrit. Et j'ai eu un bonheur extrême de tourner ça. D'abord parce qu'on était un peu à l'abri à La Réunion. Ouais. Et puis surtout, j'ai découvert ce pays que je connaissais un tout petit peu, mais qui est un pays absolument magnifique.
Je vais pas vous demander si vous avez une date, parce que j'imagine que vous n'avez pas de date de sortie.
Ça sera en octobre 2021.
Ah, 2021, on pense que tout sera réglé d'ici là. Et puis moi, j'ai hâte de voir. Il faut du
courage.
Non,
on pense pas, on espère.
On espère, ouais. Voilà. Et puis j'ai hâte de voir Marc Lavoine dans le rôle d'un chanteur à la ramasse. Il faut être courageux pour jouer ça. Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup, Gérard Jugnot. Je rappelle, ce livre, c'est L'heure des contes, c'est chez Flammarion. Livre dans lequel vous
revisitez. C'est un cadeau de Noël. Hein.
Oui, vous revisitez Perrault, La Fontaine ou Grimm. Ça se lit à partir de quel âge?
Disons qu'à partir de 12 ans. Mais il n'y a pas de choses grossières, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être comprises.
De toute façon, c'est pas pire qu'une petite fille qui se fait manger par un loup.
Absolument, mais oui, mais voilà, c'est absolument. Ouais, c'est juste la grand-mère qui mange le loup,
voilà.
Ça fait un loup grillé.
Merci beaucoup encore Gérard Jugnot. Culture Média, c'est terminé. Nous, on se retrouve demain à 9h avec une star du polar, Maxime Chatham, 7 millions de livres vendus juste pour la France. Il sera notre invité pour son nouveau roman qui s'appelle L'Illusion. Et puis, on va revenir sur les résultats de l'élection présidentielle américaine, le traitement médiatique de la dite élection. Nous serons avec la correspondante de CNN à Paris, Mélissa Bell. Après le flash, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien. Je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.